Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
La stupeur et l'incompréhension dans un village de l'Oise après l'arrestation d'un chauffeur routier. Un habitant sans histoire selon les voisins, l'homme a tiré à deux reprises sur son gendre. Les gendarmes enquêtent sur un différend familial.
Bonjour. Dans cette affaire qui se déroule dans un village de l'Oise au printemps 2019, tout paraît simple. Un ex-beau-père qui tue son ex-gendre de deux coups de fusil. Un drame tristement banal. Sur fond de mésentente familiale, la victime s'appelle Cyril Fortas, 36 ans. Le meurtrier se nomme Guy Fernet, 59 ans. À l'époque des faits, les investigations, nombreuses, étoffées, vont pourtant donner un tout autre éclairage au dossier, au point que les rôles vont peu à peu s'inverser. Avec la description d'un beau-père qui vivait dans la terreur, d'un homme qui gangrénait et menaçait l'existence de sa famille, l'histoire d'un sexagénaire gagné par l'épuisement, usé par des nuits sans sommeil, et qui a fini par faire feu. Un routier qui n'a jamais commis aucune infraction face à un multi-récidiviste violent au casier judiciaire très rempli. C'est donc la crainte qui aurait guidé le geste fatal. Comment un homme ordinaire en est-il venu à endosser le costume d'un meurtrier? Avait-il le droit de se défendre? Comment le juger? Et pourquoi ce crime est aujourd'hui un cas d'école? Question posée à nos invités, dont l'avocat de Guy Fernet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, un meurtre apparemment banal dans un village de l'Oise au printemps 2019. Un drame familial où tous les regards vont immédiatement se diriger vers leur meurtrier présumé, Guy Fernet. Un camionneur placide qui n'a jamais fait parler de lui. Lundi 1er avril 2019, 19h25, la gendarmerie est alertée d'un différend familial qui a dégénéré au numéro 26 de la rue de la Cavée, à Balagny-sur-Thérain, un village de l'Oise à 40 minutes de Beauvais. C'est une femme affolée qui a alerté les autorités. Elle s'appelle Muriel Fernet. Elle raconte que son mari vient de tirer sur son ex-gendre. Sur l'enregistrement de son appel au SAMU, la femme pleure et demande l'envoi de secours. On l'entend dire dans la plus grande confusion « Il va aller en prison !» Ou encore, à propos de son ex-gendre, « Il est venu, c'est lui !» Il a foncé. Sur place, devant l'entrée du pavillon, les gendarmes découvrent dans une mare de sang un corps sur le sol recouvert d'un drap. Il s'agit de Cyril Fortas, 36 ans. Il a été touché par deux impacts de chevrotine au visage. Une balle a frappé l'oreille gauche, une deuxième a transpercé la joue droite et fracassé la base du crâne. Cette dernière balle a sans doute tué le malheureux. Les tirs ont été effectués à très courte distance, 1,50 m, 2 m, et ont visé la tête. L'arme du crime est retrouvée sur l'escalier extérieur du pavillon, un fusil de chasse de marque Bulling International avec deux cartouches à l'intérieur. Sur la terrasse, Guy Fernet, 59 ans, est pris en charge par le SAMU. Il vient de faire un malaise. Il se présente comme le beau-père de la victime. Il reconnaît d'une voix presque éteinte être l'auteur des coups de feu. Un test d'alcoolémie se révèle négatif. Il est placé en garde à vue pour homicide volontaire. Muriel Fernet, l'épouse du tireur présumé, est entendue. Elle raconte que tout a dégénéré autour de 19h30. À ce moment-là, son mari rentrait en voiture au pavillon. Il était allé chercher sa fille, Lindsay, 31 ans, à la sortie de son travail. Ils avaient déposé chez une grand-mère la petite Alicia, 2 ans, l'enfant de Lindsay et Cyril Fortas. Devant la maison, ce dernier a surgi en voiture. Il a barré le chemin au mari. Il a alors fait demi-tour, le mari, pour se cacher un peu plus loin derrière les murs d'un entrepôt. Les gendarmes ont été appelés. Le mari et la fille sont ensuite revenus au pavillon, mais Cyril Fortas les avait suivis. Il a défoncé le portail. Lindsay est sortie de la voiture et lui a mis une gifle. Elle s'est enfuie. Juste après, j'ai entendu un premier coup de feu, puis un second, témoigne Muriel Fernet. Sous le choc, elle ajoute que depuis des mois, à cause de Cyril Fortas, la famille est aux aguets et ne vit plus. Il y a un mois, son mari a même fait installer un système de vidéosurveillance. Le meurtre a été filmé du début jusqu'à la fin. Sur les images, on voit Cyril Fortas entrer dans la propriété. Il s'en prend à Lindsay et à Muriel Fernet à 19h29 et 59 secondes exactement. Guy Fernet sort en courant de l'habitation. Il pointe son fusil en direction du visage de Cyril Fortas. Il tire. La victime porte sa main sur son front. 8 secondes plus tard, Guy Fernet arme à nouveau le fusil. Deuxième tir. L'homme s'écroule et ne bouge plus. 19h30 et 19 secondes, le tireur dépose son fusil, va chercher un drap blanc dans le garage et recouvre le corps. Samedi 6 avril, 5 jours après le drame et alors que la stupeur règne toujours, dans le village de Balagny-sur-Thérain, les amis de Cyril Fortas, mort à 36 ans, organisent une marche blanche. Ils déposent des fleurs là où le Martiniquais a été abattu. « On ne fait pas justice soi-même », dit un participant. Un autre proche de la victime indique « Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un meurtre, c'est tout simplement un assassinat ». Et on va voir ce que vont penser les enquêteurs de ce scénario mortel, quelles vont être les explications de Guy Fernet, le tireur, et dans quel contexte ce dernier est allé chercher son fusil et a fait feu. On va alors découvrir une toute autre histoire, bien plus complexe qu'elle pouvait se présenter au premier abord. Bonjour Tony Poulain.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Vous avez suivi cette affaire et puis vous avez suivi le procès de Guy Fernet pour effectivement le Courrier Picard. Ce procès, on va en parler, mais un peu plus tard dans la suite de l'émission. Il y a quelque chose de très frappant dans cette histoire, c'est que, a priori, on ne devrait même pas en parler aujourd'hui. Parce que c'est un crime des plus ordinaires, presque. J'allais dire banal. Il n'y a pas de crime banal, mais là, effectivement, tout paraît très simple.
Toute la partie matérielle du crime, c'est un débat qui a été évacué en 3 minutes aux assises, puisque c'est quand même rare que l'auteur ait lui-même installé les caméras qui permettent de filmer son crime. Et puis d'ailleurs, il a reconnu immédiatement. Et donc, qui a tué qui? Cette question, elle a été réglée immédiatement. Après, il y avait des choses beaucoup plus compliquées à cerner lors du procès. Évidemment, c'est une histoire banale, mais elle nous touche. Je pense que tout ce temps qu'on est, ce qui nous fascine à la cour d'assises, c'est pas tant le grand banditisme et ses légendes, c'est Monsieur Tout le Monde qui n'a jamais fait parler de lui avant, qui ne fera jamais parler de lui après, et qui se c'est un homme ordinaire projeté dans une situation extraordinaire.
Et oui, c'est un meurtre de proximité, c'est-à-dire que ça peut presque arriver dans toutes les familles. Il y a ces différends qui naissent et qui provoquent des crispations et de la peur, et la peur, elle est très présente dans ce dossier. Encore un mot, Tony Poulain, vous parliez de la vidéosurveillance. Effectivement, Guy Fernet, il a voulu installer des caméras parce qu'il se sentait menacé et que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces images? Qu'est-ce qu'on voit? C'est le déroulé très précis d'un meurtre en direct, finalement.
Donc, ces caméras, elles ont un mois, parce qu'il faut savoir que le portail que défonce la victime ce jour-là, c'est un portail provisoire, parce qu'il avait cassé le vrai portail de la maison
Guy
un
Fortas,
mois avant.
Ouais, le gendre.
Cyril.
Oui, Cyril, pardon.
Donc c'est la deuxième fois en un mois qui défonce ce portail. On le voit en effet... On voit Guy foncer vers la maison. Cyril Fortas repousser la maman de son ex-compagne, donner une gifle violente à son ex-compagne, et puis les deux femmes réussissent à l'éloigner vers la rue. Et c'est le moment où Guy, le père et mari des deux femmes agressées, arrive avec son fusil, un fusil qu'il avait depuis des dizaines d'années. Il était tellement un grand tireur qu'il a même pas mis 2 cartouches identiques dedans. Enfin, ça vous donne le niveau d'amateurisme.
Il n'y avait pas de préparation.
Absolument pas.
Ah oui, mais c'est important parce que là.
Et on le voit faire feu à 2 reprises. La première balle aurait nécessité 3 jours d'hospitalisation. C'était pas grave, ça avait frôlé la joue de mémoire, mais la deuxième traverse.
La deuxième a été effectivement mortelle et ce sont des tirs très près, 1m50, 2 mètres. C'est presque pas à bout touchant, mais à bout portant en tout cas. Bonjour Maître Pascal Garbarini.
Bonjour.
Merci infiniment d'être vous aussi aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors évidemment, vous êtes avocat au barreau de Paris. Et dans cette affaire, vous êtes l'avocat de Guy Fernet. Vous avez suivi cette affaire de A à Z. Cette famille, vous la connaissez parfaitement. Vous les avez assistés jusqu'au procès. Et d'ailleurs, vous continuez à avoir des liens avec eux. Vous nous en parlerez dans un petit moment. Il faut que vous nous parliez, Maître Garbarini, de ce climat très particulier qui règne dans cette famille. Les acteurs, Guy Fortas, lui c'est effectivement c'est Guy Fernet, donc lui c'est le tireur, c'est le beau-père, et c'est une famille où on ne s'entend pas très bien avec cet ex-gendre qui sème la terreur, c'est ça?
Alors, la réalité est un peu plus, on va dire, complexe, parce que la famille Fernet a immédiatement accepté M. Cyril Fortas lorsqu'il a eu des liens affectifs avec leur fille Lindsay. Ils ont même puisque Monsieur Cyril Forta, c'était un multi-récidiviste.
Il sortait de prison.
Et c'est grâce à la famille Fernet qu'il sort de prison, puisqu'ils vont accepter, dans le cadre d'une libération conditionnelle, de lui donner une attestation d'hébergement. Mmh. Donc, on est face à une famille qui a tout à fait accepté Monsieur Cyril Fortas, malgré ses ennuis et ses antécédents judiciaires. Mmh. N'oublions pas, il aura été condamné 18 fois, mmh. et avec des violences très importantes. Et en fait, il y a eu une sorte d'accumulation de violences entre l'INSEE, la fille du couple Fernet, et Cyril Fortas, qui n'ont fait que s'accroître et s'accentuer, mmh. jusqu'à la naissance de la petite fille, Alicia.
Alors, on est dans un climat un peu délétère, c'est-à-dire, hein, cet ex-gendre, il fait un petit peu peur, il était très imprévisible, donc effectivement, la tension, elle commence à monter dans cette famille, se méfie.
Mais la tension, elle a atteint son paroxysme, l'INSEE est une jeune maman et elle avait expliqué à Monsieur Cyril Fortas la chose suivante. Elle lui avait dit « Tout ce que tu m'as fait subir, je l'ai accepté lorsque je n'étais qu'une femme. Mmh. Mais maintenant que je suis une maman,
c'est fini.
Dès qu'il y aura de la boisson, dès qu'il y aura de la drogue et dès qu'il y aura de la violence, ce sera terminé entre nous. Mmh. » Et un soir, pour vous dire la violence, elle a préféré se jeter par la fenêtre du deuxième étage de son appartement plutôt que de subir les coups de M. Fortas.
Donc effectivement, tout ça, évidemment, ça pèse sur cette famille. Hein. On vit dans cette tension permanente. Un mot encore sur votre client, Guy Fernet. Il est camionneur, il n'a pas de casier judiciaire. C'est un citoyen, j'allais dire, ordinaire, lambda.
Mais c'est un citoyen tout court. D'ailleurs, il y a des recherches très approfondies qui ont été faites par les services de gendarmerie pour connaître le passé judiciaire. Et je crois qu'il n'a même pas eu une contravention, homme.
Pour un chauffeur routier, c'est exemplaire.
C'était incroyable. Et d'ailleurs, tout au long de ce que je vous ai décrit, les violences. C'est-à-dire que les services de gendarmerie ainsi que le parquet ont été informés. Mmh. C'est-à-dire qu'à aucun moment la famille Fernet a décidé, entre guillemets, d'en découdre seule.
Ou
de se faire justice. À chaque fois, les services de gendarmerie ont été informés, soit par des mains courantes, soit par des plaintes.
Tony Poulain, justement, c'est important ce que dit Pascal Garbarini. Dans ce village, on connaît tout le monde connaît les acteurs du drame. Hein. Et puis c'est la consternation. Et finalement, il y a ceux qui disent il a peut-être bien fait, puisqu'on dit les choses comme ça. Et puis d'autres qui contestent ça et disent on n'a pas le droit de faire justice.
Oui, c'est un village.
Il va y avoir une marche blanche.
C'est un village de 1700 habitants. Donc vous imaginez bien que. Oui, alors que tout le monde a tendance à prendre parti, en effet. Est-ce que c'est une question de génération, les jeunes plus près de la victime, j'imagine les pères de famille plus proches de l'auteur des faits, puisque évidemment que quand on a des enfants, ça touche immédiatement. Faut quand même savoir que ça allait crescendo à partir de la séparation fin 2018. Et ça, on en a la preuve parce que, donc, Cyril n'a pas supporté la séparation, il fait des crises de jalousie, il appelle jusqu'à 50 fois par nuit l'INSEE.
C'est du harcèlement, c'est ça.
Oui, il s'est mis en tête qu'elle avait un nouveau compagnon, ce qui est faux. Et il va même l'agresser alors qu'elle accompagne les enfants du village vers la cantine. Et ça, on le sait, c'est pas un délire de l'accuser, puisque c'est la mère du village qui viendra en attester. Donc c'est monté. Et tout le village est en effet au courant des problèmes entre le gendre et le beau-père.
Le tireur est en garde à vue, les témoignages se succèdent pour décrire un drame annoncé. Mardi 2 avril 2019, Guy Fernet est en garde à vue. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître les faits. Il regrette ce qui s'est passé. Le chauffeur routier, dont le casier judiciaire est vierge, explique qu'il possède un fusil de chasse depuis plus de 40 ans. Il n'avait aucune intention de s'en servir contre son ex-gendre. Fernet explique que Cyril Fortas harcelait sa famille depuis des mois suite à la séparation avec sa fille l'INSEE. Le lundi soir, il s'est montré menaçant et provoquant. Il voulait se battre. Il avait les yeux rouges et ne paraissait pas dans son état normal, dit le suspect. Après le premier tir, il semblait se moquer de moi. J'ai tiré une seconde fois. Guy Fernet, est mis en examen pour meurtre. Face au juge de Senlis, Laurent Martello, il explique que son gendre était quelqu'un de pas gentil. Il injuriait ma fille, lui crachait dessus, la poussait. Guy Fernet raconte qu'au mois de février, Fortas l'a menacé de mort. Il m'a fait un geste d'égorgement en disant « Voilà pour toi et ta famille ». Le camionneur indique qu'il était exténué par cette situation. Lors de l'altercation devant le pavillon, il raconte que la peur l'a envahi. Il ne sait pas pourquoi il a visé le visage, il n'avait pas l'intention de tuer. Il dément avoir tenu des propos racistes vis-à-vis de la victime. Lindsay Fernet, la fille de Guy, avait 17 ans en 2005 quand elle a rencontré Cyril Fortas. Il sortait de prison. Elle témoigne que sa vie de couple n'a été qu'une suite de séparations et de réconciliations, de disputes et de retrouvailles. En 2016, elle raconte avoir dû sauter d'un balcon pour échapper à son compagnon violent. Elle s'est fracturé un tibia. Selon elle, Cyril s'était mis dans la tête qu'elle le trompait. Il s'est mis à me surveiller nuit et jour. Il m'insultait, me menaçait, y compris à mon travail et chez mes parents. La gendarmerie et le commissariat de Creil avaient été alertés de ces menaces, de ces SMS insultants ou intimidants et des coups de fil répétés de Cyril Fortas, parfois en pleine nuit. Il devait prochainement comparaître pour ses affaires devant le tribunal de Beauvais pour harcèlement. À Balagny-sur-Thérain, de nombreux résidents n'ignoraient rien de la situation explosive de la famille Fernet. Deux mois avant le drame, la maire de la commune avait confirmé dans une attestation que Lindsay Fernet faisait l'objet de tensions et d'insultes de la part de Cyril Fortas. Selon elle, les Fernet étaient à bout. Les amis de Lindsay témoignent de pressions exercées par l'ancien gendre. Ils pouvaient rester des nuits entières à attendre Lindsay devant chez elle, dit une proche de la jeune femme. Les amis de Cyril Fortas donne, eux, une toute autre version des faits. Une jeune femme avec qui il a eu une liaison le décrit comme gentil et généreux. Selon elle, Cyril était malade de ne plus voir sa fille. Ça le rendait fou. La mère de la victime, Monique Fortas, dit que le seul tort de son fils était d'être malheureux car il ne pouvait plus voir sa fille. Il prenait, selon elle, des stupéfiants, déclaration qu'elle va ensuite retirer, et buvait trop d'alcool. Il m'avait dit qu'il avait peur de Guy Fernet car celui-ci avait un flingue, assure la mère. Elodie Fortas, sœur de la victime, affirme que son frère était menacé par Fernet. Elle dit disposer d'enregistrement. Et effectivement, les jugements sont contrastés à ce stade des investigations. Guy Fernet est-il ce paisible citoyen menacé par son gendre ou bien le scénario est tout autre? Les psychiatres vont donner une clé pour donner un nouvel éclairage à l'affaire et dire, selon eux, pourquoi le tireur est passé à l'acte. On va en parler, effectivement, dans la suite de l'heure du crime. Alors, Guy Fernet est en prison. On l'a écroué dans un premier temps à Lille, ce que d'un. Maître Pascal Garbarini, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Vous êtes l'avocat de Guy Fernet dans cette histoire. Et encore une fois, vous avez suivi ce dossier de A à Z, vous le connaissez parfaitement. Alors, Guy Fernet, votre client, ce qu'il décrit au juge, et qu'il a déjà dit d'ailleurs aux gendarmes en garde à vue, c'est une entreprise de harcèlement et de terreur. C'est comme ça qu'il présente les choses.
Il manifeste bien évidemment qu'il se retrouve dans une situation qui n'est pas voulue. C'est-à-dire que la famille Fernet ne voulait pas vivre cela. Mais ensuite, ils ont été également à l'écoute des pleurs, des blessures de leur fille. Et c'est à ce moment-là que ils avaient d'ailleurs dit, alors qu'ils acceptaient Cyril Fortas depuis le début, en
dans
disant maintenant, ça suffit. Ça suffit, cet homme te fait du mal, donc ça suffit. Et ensuite, ils ont de nouveau accepté M. Cyril Fortas lorsqu'ils ont appris que leur fille était enceinte de M. Cyril Fortas. Et ils lui ont à nouveau donné une chance, en pensant qu'il allait s'amender et qu'il allait créer une famille et dans laquelle il était d'ores et déjà accepté et qu'il allait créer sa propre famille avec leur fille. Mmh. Et ça n'a été que des reproches, que des boissons, que des mauvaises fréquentations, que de la prison à nouveau, et donc ce n'était plus possible, jusqu'à l'épisode du balcon où celle-ci se jette par la fenêtre.
Elle a peur, elle s'enfuit.
Enfin, elle s'enfuit. On est dans une crainte et dans une terreur. Pourquoi la famille Fernet met des vidéosurveillance? Parce que l'itinéraire de M. Fortas la nuit était de passer devant la maison, devant le pavillon du couple Fernet, et de jeter des bouteilles, les bouteilles qu'ils buvaient. Donc les bouteilles de rhum s'emplissaient et étaient jetées contre dans la cour, et étaient jetées contre le mur du pavillon. Et ensuite, il y a eu ce moment, encore une fois, complètement fou, où il va défoncer Le portail. Et comme les gendarmes, à ce moment-là, disent « Écoutez, on n'a pas de preuves », c'est à ce moment-là qu'ils disent « Eh bien, très bien, on va à ce moment-là acheter et mettre en place une vidéosurveillance pour rapporter la preuve. Mmh. » Donc, on est dans une parfaite communion citoyenne entre la famille Fernet et les services de gendarmerie.
Alors, il y a autre chose aussi, Pascal Garbarini, encore une question. La victime, Cyril Fortas, elle a déjà un casier judiciaire qui est conséquent, hein, c'est ça ?
18 condamnations.
18 condamnations.
18 condamnations.
Pour violence, c'est ça ?
Pour violence. Une des violences, c'est que pour une dette d'argent manifestement liée à des stupéfiants, ils ont emmené quelqu'un dans la cave et ils l'ont torturé et séquestré jusqu'à ce qu'il rende l'argent. Ça, c'était une des condamnations. Une autre, c'est un carjacking. Parce que M. Fortas était un colosse, il a sorti le conducteur par la fenêtre de la portière de la voiture, pour vous donner le genre. Et Lindsay Fernet, elle était assistante maternelle, il est allé l'harceler jusque dans l'école, et notamment lorsqu'elle accompagnait les enfants.
Oui, c'est ce que disait Tony Poulin il y a un instant, effectivement. Donc il y a ce profil qui pèse lourd, fatalement, hein, lors des interrogatoires et lors de la description de l'enquête en général.
Mais la famille a peur.
Et c'est ça, la famille.
Il a peur parce que, comme disait M. Fernet, comme m'a dit mon client, sans trahir le secret professionnel, il a dit j'avais peur qu'il me frappe. Oui, qu'il me frappe à mort.
Il vivait dans la crainte de mourir, finalement.
Bien sûr.
Hein, c'est ça.
Et ça a monté doucement.
Il
avait confié au procès qu'il vomissait le matin en se levant. Tellement la perspective de la journée qui commençait. Et puis, c'est pas un hasard s'il amenait sa fille au travail tous les matins et s'il reprenait sa fille le soir. C'était un homme qui a peur, mais c'est aussi un homme qui veut protéger ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire sa fille.
Alors après, il faut entendre aussi l'autre partie. Désolé, l'autre côté, il y a la famille et puis il y a la victime qui est morte. Cyril Fortas est mort. Donc, il y a eu... la famille va dire qu'effectivement, il n'était pas si méchant que ça. Il y a un autre portrait qui va être dressé. Il y a cette marche blanche aussi où on vient le soutenir.
Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de monstre dans les palais de justice. Ceux qui les fréquentent le savent. Il ne pouvait pas avoir que des défauts, ce monsieur. Simplement, il avait déjà fait 57 mois de prison à 35 ans. Il y avait un vrai danger que ce procès soit finalement celui de la victime. Et je pense, Maître Garbarini pourra ou pas le confirmer, mais je pense que ce procès a été réussi dans ce sens, c'est-à-dire que les magistrats, et même vous en défense d'ailleurs, vous n'avez pas essayé de faire le procès de la victime. On a rappelé souvent qu'il y avait quelqu'un qui était victime, qui était mort, et quoi qu'il ait fait avant, il méritait pas la mort pour autant. Et puis il y avait quelqu'un qui avait pressé la détente. Je crois que la plus grande forme de respect de la victime, c'est finalement que vous n'ayez pas plaidé la légitime défense, voyez-vous. Parce que c'est l'insulte complète.
On va y venir, effectivement, il y a la problématique de la légitime défense dans ce dossier. Mais on va y venir. Maître, je voudrais quand même que vous me disiez un mot là-dessus. C'est que la sœur de la victime, de Cyril Fortas, elle va dire qu'elle était menacée, qu'il était menacé par Guy Fernet, qu'il lui avait envoyé des messages, Guy Fernet, en disant à peu près ça va mal se passer pour toi si ça continue.
Oui,
c'est vrai ou c'est faux ?
C'est totalement faux. Ça a été établi ensuite, notamment au procès, où tout cela était en fait des arguments pour essayer de contrebalancer le profil de la victime, qui était un profil, et je peux l'entendre du côté de leur famille, qui était très désagréable à entendre. Bon, et pourtant, c'est un fait. C'est pas M. Fernet qui a fait l'objet de 18 condamnations, et qui est allé à plusieurs reprises en détention provisoire. Bon, c'est lui, la violence était un de ses modes de langage. Moi, j'ai refusé de faire le procès parce que, pour autant, la victime, c'est lui.
Bien sûr.
On est bien d'accord. Oui. Cela étant, il y avait un contexte qui était très très fort et qui ont amené une famille ordinaire, citoyenne, de travailleurs à se retrouver, je ne sais pas si vous voyez, à se rendre continuellement à la gendarmerie pour dénoncer des faits, à mettre une vidéosurveillance, à avoir peur d'être suivi, à M. Fernet qui était obligé d'aller chercher sa fille. qui travaillait au milieu des enfants pour protéger ensuite sa propre petite fille. Lorsque vous avez décrit les faits en eux-mêmes, la petite fille est à l'arrière du véhicule. Elle a 2 ans, elle est dans le siège bébé. Ouais. Et ça n'empêche pas M. Fortas de frapper une gifle à tourner la tête de la mère de son enfant. Oui, c'est ça aussi le contexte.
Oui, donc c'est ça, on est dans une situation d'extrême violence.
Et j'ajoute que l'expert, puisque vous en avez parlé, Monsieur Richard, c'est que l'expert conclut à une altération
du jugement. On va y venir, parce qu'effectivement, il va y avoir cette phase où il tire, et on va estimer qu'il n'était plus lui-même à ce moment-là. C'est ce que vont dire effectivement les experts. 5 mois après, le suspect demande à être libéré. Pas question, répond la justice.
Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en faisant un enfant à Cyril, elle savait très bien dans quoi elle s'engageait. Et elle savait très bien que Cyril se battait pour ses enfants et se serait toujours battu pour ses enfants. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et Cyril, j'espère que tu nous entends. Et j'espère que son beau-père, on lui fera la misère aussi.
Mardi 23 juillet 2019, presque 4 mois après le meurtre de Cyril Fortas, le psychiatre qui examine Guy Fernet indique dans son rapport que cet homme a toujours éprouvé de la culpabilité, de la peur et de la honte face à son ex-gendre. Selon le médecin, ce cocktail d'émotions est très probablement à l'origine du passage à l'acte. Le contrôle de ses actes et son discernement étaient altérés au moment du drame. Le médecin évoque effectivement un débord émotionnel, un afflux d'émotions qui l'aurait empêché de réfléchir à ce qui se passait. Au psychiatre et à une psychologue, le camionneur a répété qu'il n'était plus lui-même quand il a tiré. « Je ne me reconnais pas dans cette action, j'éprouvais un sentiment de peur extrême pour moi et ma famille. » La psychologue décrit un individu qui a été incapable de faire face au stress qui l'envahissait. Elle ajoute que l'homme, affecté par cette affaire et par la prison, est sur le point de s'effondrer psychologiquement. Il est alors transféré à la prison de Beauvais pour être plus près de sa famille. Mercredi 9 septembre 2020, 1 an et demi après le crime, Guy Fernet, 60 ans, est amené au pavillon familial de Balagny-sur-Thérain pour une reconstitution du crime. Il refait les gestes. Il explique être sorti de sa voiture en courant car il était mu par la peur. « Je n'avais pas la notion d'aller chercher le fusil. C'est en voyant ma femme se faire battre que j'ai décidé de tirer. Je n'ai pensé à aucune autre solution », précise-t-il. Le chauffeur routier ne sait plus comment il a manipulé le fusil et s'il avait enlevé la sûreté de l'arme avant le tir. Et dans cette heure du crime, on retrouve maître Pascal Garbarini, avocat au barreau de Paris, et dans cette affaire, avocat de Guy Fernet. Maître Garbarini, le rapport des psys, il pèse lourd dans cette affaire, parce que il y avait peut-être des doutes qui existaient. Est-ce que cet homme dit la vérité, finalement, ce camionneur qui est si paisible, mais après tout, il pourrait tout inventer et dire qu'il ne voulait pas tuer, mais qu'il avait bien préparé son geste. Là, on le décrit comme un homme en proie à la peur, au désarroi, à la crainte. Il est effrayé, cet homme.
Cet homme est totalement effrayé. Ses expertises ont bien évidemment été capitales dans un procès, puisque, comme vous le savez, il y a toujours l'appréciation de la personnalité, la personnalité tout court, mais également la personnalité au moment des faits. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'était le visionnage de la vidéo. Parce que lorsqu'on voit Monsieur Fernet sortir de la voiture, puisqu'il l'a conduit, lorsque les coups sont portés par Monsieur Fortas sur sa fille, on a l'impression, pardonnez-moi cette image, mais que c'est un Playmobil qui sort. C'est-à-dire qu'on dirait un robot, un petit robot, qui sort de la voiture et qui se dirige vers le pavillon. Et là, il va se saisir d'un fusil où l'expertise balistique va établir que c'est un fusil qui n'a plus servi depuis 1972.
Ah oui, d'accord. Donc il n'était pas préparé, et c'est pas une arme qui servait.
Pas du tout. Donc et c'est machinalement qu'il va prendre 2 cartouches qui en plus ne sont même pas identiques, et il se mue ensuite vers la victime. Mais encore une fois, on dirait un robot. C'est-à-dire que on a l'impression que cet homme ne pense plus, ne sait plus ce qu'il fait. Et c'est ce que vont révéler les experts, parce que encore une fois. C'est ce qu'il vit, cet homme. Ouais. C'est impensable qu'il puisse le vivre un jour pour lui.
C'est ce qu'on appelle une abolition passagère du discernement, finalement.
Une altération.
C'est ça, altération. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer ce que c'est. C'est que pendant quelques secondes ou quelques minutes, il n'est plus lui-même.
Il n'est plus lui-même. C'est-à-dire que l'altération, en fait... S'il avait eu une abolition, il n'aurait pas pu être envoyé devant la cour d'assises parce qu'on aurait dit que il était dans l'incapacité de savoir ce qu'il faisait. Là, on est sur quelque chose qui est certes moindre, mais qui décrit bien l'état psychologique de M. Fernet au moment des faits. C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait lui-même.
Au moment des tirs, il est entre parenthèses. Sa vie est entre parenthèses.
Sa vie étant, hein, il ne sait plus ce qu'il fait.
Le temps est suspendu. Et voilà, et ça, tout s'arrête, et puis après ça va repartir. Il va d'ailleurs faire un malaise après ses tirs, parce qu'émotivement, il ne peut pas tenir le choc. Il se rend bien compte de ce qui s'est passé. Tony Poulain, vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard, et vous avez suivi cette affaire et le procès de Guy Fernet. On va en parler dans un moment de ce procès pour, effectivement, le Courrier Picard. Alors quand même, il recharge l'arme. Il y a deux coups de feu qui sont donnés. Ça pourrait être une circonstance aggravante.
Oui, il tire deux fois.
Il tire deux fois. Il y a 9 secondes entre le premier tir et le deuxième tir. C'est précis grâce à la vidéosurveillance.
Ah, mais
et ça veut dire que, bon, il veut tuer, même s'il dit le contraire, non ?
Ah, mais il y a une volonté homicide à cet instant, dans un esprit qui... on a parlé du psychiatre, mais le psychologue a aussi dit qu'il a atteint le paroxysme de son état de tension. Mmh. Mais le fait est on est obligé de convenir qu'il a voulu tuer. Il tire à 1m50 au visage de quelqu'un. C'est pas comme envoyer un bouquet de fleurs. Et ce qu'il a dit, ça correspond exactement à ce que vous venez de dire. Il a dit « c'est pas moi, je suis pas quelqu'un qui tue ».
Oui, c'est ça. Il va répéter
comme
ça.
S'il y avait un double qui avait agi ce jour-là.
Il va répéter ça, c'est très impressionnant d'ailleurs. Et les psychiatres vont très bien expliquer, les rapports des psychiatres et de la psychologue sont effectivement très précis. Pascal Garbarini, on est là un peu à la limite. Légitime défense ou pas ? Cet homme, il est harcelé. Il dit qu'il a peur. Avec un homme violent qui se présente à son portail, qui la nuit appelle au téléphone. Mais... on n'est pas dans la légitime défense, parce que la victime, Cyril Fortas, n'est pas armée. Donc pour légitime défense, il faudrait que Cyril Fortas ait été armé.
Oui, en matière de légitime défense, il faut une riposte qui soit proportionnée. Et puis il faut que la personne soit dans une situation qui fait qu'elle ne peut plus, par exemple, partir. C'est-à-dire que vous êtes acculé à un mur, quelqu'un essaye de vous tuer avec un couteau, vous sortez un couteau, vous tuez la personne avant qu'elle ne vous tue,
il y a une légitime défense. Okay.
Là, on n'est absolument pas... Monsieur Fortas n'est pas armé. Il est certes alcoolisé, il est sous stupéfiant, mais il n'est pas armé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, Monsieur Fernet peut rester dans la maison, par exemple. Or, il en sort, en plus, avec une arme. Et moi, j'ai commencé ma plaidoirie très vite en disant que je refusais de plaider la légitime défense. Parce que la légitime défense, de manière juridique, je ne voulais pas tromper les jurés. Et surtout pas, bien évidemment, la présidente et les autres magistrats professionnels qui composent une cour d'assises. Mais j'ai dit, je ne peux pas la plaider et je ne la plaiderai pas. En revanche, je vais vous plaider le contexte qui est une sorte de légitime défense.
Il y a quand même la jurisprudence Jacqueline Sauvage. Elle tue son mari.
Il y en a qui ont essayé et ça n'a pas marché. Ils ont eu des problèmes. Et là, Maître Garbarini est trop bon pour avoir tenté ce coup-là, qu'il faut garder pour la fois où c'est jouable. On ne s'amuse pas avec la légitime défense. Hein. Le code l'a vraiment... codifié, pardon du terme. Voilà, moi qui suis observateur des procès d'assises, il faut s'en servir quand on est sûr qu'elle peut servir à quelque chose. C'est pas juste... Vous allez peut-être impressionner un juré, mais pas un magistrat professionnel.
Plus de 2 ans après les faits, le tireur va se retrouver aux assises. Lundi 4 octobre 2021, Guy Fernet, presque 62 ans, est devant la cour d'assises de l'Oise, à Beauvais. Il apparaît perdu, anxieux, déboussolé. Il décrit le 1er avril 2019 comme le pire jour de sa vie. « C'est pas moi, je suis pas quelqu'un qui tue, moi. Je suis pas comme ça, madame », dit-il en larmes à Monique Fortas, la mère de la victime. L'accusé raconte avec des paroles décousues la crainte que lui a inspiré l'ex-gendre. Il était devenu... une menace pour sa fille Lindsay. Il n'acceptait pas qu'elle le quitte. Il était allé jusqu'à l'intimider avec des enfants du CM1 que sa fille accompagnait à la cantine scolaire. Pas de légitime défense selon l'accusation, même si une psychologue témoigne que Guy Fernet vivait dans un climat de terreur. Le jour du meurtre, dit-elle, la tension avait atteint son paroxysme. Mercredi 6 octobre, l'avocat général retient l'altération de Guy Fernet. Il réclame 12 ans de prison. L'accusé fait un malaise. Son avocat, Pascal Garbarini, décrit un brave type qui ne s'est même pas rendu compte qu'il tuait, tellement il était dans sa peur. Pourquoi le punir davantage, questionne l'avocat. La description de la victime en individu violent, alcoolique, drogué, qui avait passé de longs mois en prison pour vol, extorsion, séquestration, fait bondir sa famille. Sa mère a dû rappeler qu'il était quand même un être humain, confie l'avocate des Fortas. Elle regrette que certains ne soient pas loin de féliciter l'accusé pour son geste. Guy Fernet écope de 7 ans de prison. Et c'est un verdict clément, 7 ans de prison au début, il risquait 30 ans, puis ensuite, évidemment, avec cette altération du jugement, la peine a été réduite, mais on arrive au bout du bout, à 7 ans, l'avocat général demandait 12 ans de prison. Tony Poulain, vous êtes chroniqueur judiciaire au Courrier Picard, vous êtes à ce procès, vous avez suivi l'affaire. Quelle ambiance règne-t-il sur ce procès ?
Il y a eu une étrange ambiance tout au long de ce procès. Quasiment toute la salle était acquise à l'accusé. Alors qu'habituellement, on a à peu près du 50-50. Il n'y avait que la famille du mort, en fait, sur le banc des parties civiles qui était comme isolée, comme une île au milieu de la mer des Fernet. Étrange ambiance jusqu'au bout, hein, puisque c'est d'abord Madame Fernet qui va faire un malaise parce que l'avocat général va rappeler que l'accusé en courait 30 ans, comme vous venez de le faire, et elle va croire que c'est ce qui est réclamé. Donc elle fait un malaise. Ensuite, c'est son mari qui fera un malaise. Et il va y avoir un grand soulagement quand les 7 ans vont être prononcés. On sentira énormément d'amertume de la part de la famille de Cyril Fortas en fin de journée.
Un mot sur Guy Fernet, c'est l'accusé. Quel visage est-ce qu'il montre ? Est-ce qu'il est stressé ? Est-ce qu'il est détruit par cette affaire ? Comment vous voyez cet homme qui a 62 ans à l'époque ?
Mais alors, personne n'est prêt à comparaître devant une cour d'assises, mais lui encore moins que tout le monde, quoi. Et c'est un lapin dans les phares de la voiture, quoi. C'est décousu. Et il va être très respectueux vis-à-vis de la famille de Cyril Fortas. Il va l'être un peu moins. Et c'est un euphémisme avec leur avocate. Il va pas beaucoup apprécier les questions qu'elle lui pose. Et puis on va entendre des hauts, des ahs parmi la foule à ce moment-là. Alors que son confrère nous confirmera qu'elle faisait que son travail. C'est assez décousu. En même temps, c'est quelqu'un qui a compris la gravité de ce qu'il a commis.
Et qui regrette. Voilà. Et qui regrette.
Je l'ai pas senti dans la revendication. Ben voilà, il aurait pas voulu que ça arrive, hein, tout simplement.
C'est ce qu'il dit, depuis le début, d'ailleurs.
Il va pas s'ériger en héros de la légitime défense ou que sais-je encore.
Oui, il n'y avait pas de mot de vengeance ou etc.
Non.
Il est un petit peu dans le pardon, parce qu'il dit voilà, j'ai fait ce que j'aurais jamais dû faire, mais j'étais poussé à bout. J'ai pas pu faire autrement. C'est ce qu'il dit. J'ai pas pu faire autrement. Je n'avais pas d'autre solution. Maître Pascal Garbarini, 7 ans pour votre client Guy Fernet, c'est vraiment peu. Dans ce genre d'histoire, c'était un meurtre quand même.
C'est vraiment peu, mais ce qui a pesé dans cette affaire, c'est le contexte. Encore une fois, rien ne prédestinait cet homme à avoir un fusil dans les mains et à tuer le père de sa petite fille. N'oublions pas, et ça je l'ai plaidé et je le répète encore aujourd'hui, c'est que Monsieur Fernet, il a une double peine. Il a la peine d'avoir tué un homme, mais il a aussi la peine d'avoir tué le père de sa petite-fille. Et aujourd'hui, il vit avec ça, et un jour, sa petite-fille va lui dire « Papy, pourquoi tu as tué papa ?»
C'est ce que vous voulez dire quand vous dites, lors de votre plaidoirie, vous dites « Il a déjà été puni, ça ne sert à rien d'en rajouter. »
Mais bien évidemment, la punition, il va la voir tous les jours grandir. Parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, cette question va lui être posée. Et que ça peut fracasser une famille qui pourtant était unie et qui, encore une fois, n'a jamais écarté M. Fortas. Elle l'a écarté à partir du moment où celui-ci a été dans des menaces et des violences contre la propre fille, contre sa propre femme, contre la propre mère de son enfant. Donc cette situation, c'est ce contexte-là. C'est pour ça que juridiquement, on le disait tout à l'heure, la légitime défense ne peut pas jouer, ne peut pas s'appliquer, et on ne peut pas tirer par la manche un juré, quel qu'il soit, qu'il ait fait du droit ou non. En revanche, comme le dit la feuille de motivation, puisque comme vous le savez, elle est obligatoire devant une cour d'assises, dans la motivation, il est dit que, en fait, il y a une légitime défense civile, si je puis dire, citoyenne. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation où en fait, comment pouvait-il faire autrement ? Qu'est-ce qu'il pouvait faire, monsieur Fernet, pour que ça s'arrête ?
Mais c'est là que l'histoire est extraordinaire, maître, parce que ça veut dire que, je ne dis pas que c'est un feu vert pour tuer son voisin ou quelqu'un qui vous dérange, mais voilà, on prend acte qu'une situation extrême peut, non pas autoriser, mais peut occasionner ce genre de fait. Et
mais de toute façon,
on a du mal à les juger.
On a du mal à les juger parce qu'ils se fracassent deux choses. La première, c'est bien évidemment les interdictions de la société, du code pénal, qui vous interdisent de faire cela. Mais d'un autre côté, vous avez la vie au quotidien, la peur qui existe. Et pourquoi le contexte a joué également beaucoup ? Parce que les forces, encore une fois, j'insiste, c'est que les gendarmes étaient informés, le parquet était informé, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Fortas allait être condamné. Mmh. Alors c'est peut-être arrivé tardivement, mais on sait tous le nombre d'affaires qu'ont à gérer des services de gendarmerie, des services de parquet. Mais donc, on était dans une situation qui était connue. Mmh. Et monsieur, on dit, vous avez indiqué qu'on avait l'image avec les vidéosurveillances, mais on a le son, puisqu'au moment où ça se passe, madame Fernet est en ligne avec les gendarmes. Donc, on est dans une situation où il n'y a vraiment pas une volonté de tuer. Mmh. Cette volonté de tuer va exister parce que c'est un contexte qui nous y emmène.
La famille de Cyril Fortas va poursuivre Guy Fernet au civil, mais sans davantage de succès. Le 26 janvier 2024, les juges civils de la cour d'appel d'Amiens déboutent la famille de Cyril Fortas de leur demande de dommages-intérêts. La cour rappelle que le meurtrier s'était trouvé dans une situation proche d'un état de légitime défense du fait du propre comportement de la victime. Guy Fernet est sorti de prison le 22 novembre 2022, une libération conditionnelle intervenue un an après sa condamnation.
Il n'y a aucune légitime défense. On abat un homme froidement et de surcroît, il n'a pas tiré une fois, il a tiré deux fois et dans la tête. Il n'a pas une volonté de blesser ou de faire peur. Il y a une volonté de tuer. Quand bien même, il serait venu chez eux, demander sa fille, même d'une façon agressive. Est-ce que ça mérite la mort ? Il y a des tribunaux dans ce pays, on ne fait pas justice soi-même.
Un ami de Cyril Fortas, ça c'était lors de la marche blanche, donc peu après la mort de Cyril Fortas. Et effectivement, cette question de est-ce qu'on peut se faire justice soi-même, elle peut exister effectivement dans cette affaire. Maître Pascal Garbarini, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et avocat de Guy Fernet. Vous avez suivi cette affaire, vous étiez évidemment au procès. Il a été libéré très vite, 2 ans et demi, 3 ans de prison, c'est ça ?
3 ans et demi de prison, à mi-peine. Mmh. À mi-peine, mais là encore une fois, on est face à une situation où on est avec un citoyen qui certes s'est retrouvé devant la cour d'assises pour un meurtre, mais dans un contexte très particulier, pour avoir commis à un instant de sa vie un meurtre, mais dans un contexte qui fait que jamais cet homme auparavant n'a commis d'infraction et jamais après il n'en commettra d'autres. Mmh. Il lui est arrivé cela, donc d'une personne âgée, au casier judiciaire vierge, aux antécédents judiciaires et de police totalement vierge. Donc je pense, et c'est ce que j'ai plaidé, il n'avait plus rien à faire en prison, surtout que, encore une fois, il avait été puni. Pour un homme comme cela qui se retrouve dans cette situation et qui fait 3 ans et demi de détention, pour lui, ce n'était inimaginable. C'est ça la situation. Alors c'est vrai que les magistrats m'ont écouté, qu'ils ont pris bien évidemment à cœur de se renseigner sur le contexte et sur la personnalité de monsieur Fernet. Alors je vous signale qu'en détention, monsieur Fernet, il aidait les autres. Il faisait le scribe, pour ceux qui ne savaient pas écrire. Il les aidait également dans toutes les démarches administratives au sein de la prison. Il s'occupait de la paroisse,
Et donc ça, fatalement, on a tenu compte hein, de ce comportement. On appelle ça un comportement exemplaire hein, pour l'administration pénitentiaire. Et donc, il sort assez vite, 3 ans et demi, vous l'avez dit, 3 ans et demi de détention pour un meurtre. Donc, et 7 ans de condamnation, c'est qui est peu. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Et vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime. Vous connaissez bien cette affaire. Vous avez suivi tout le procès. On l'a dit assez souvent dans cette heure du crime que, effectivement, la famille, elle n'a cessé de sonner les gendarmes, d'appeler même le commissariat à Creil, parce qu'ils se sentaient menacés par cet homme. On ne les a pas beaucoup entendus, et finalement les gendarmes, ils ne sont pas venus au secours de cette famille, ce qui explique peut-être, entre guillemets, cette réaction extrême. Là, les gendarmes ont fait leur mea culpa, je crois, dans cette affaire.
Oui, parce que Guy Fernet, il n'a pas sorti le fusil à la première anicroche, hein. C'est monté doucement. Et je n'ai pas entendu beaucoup d'autocritiques de gendarmes en cour d'assises. Et là, on a un officier de police judiciaire qui a dit, je vous redonne la citation précise, « Ces procédures-là auraient mérité un autre regard ». Et je crois que c'est la leçon qu'on peut tirer de cette affaire, c'est qu'il n'y avait pas de fatalité à ce que Cyril Fortas meure ce jour-là et à ce que Guy Fournet aille passer 3 ans et demi de sa vie en prison. Des mesures d'éloignement, des procédures plus rapides.
Il n'y a jamais eu ça dans le dossier.
Il y avait une convocation quand même en justice à Beauvais. Oui. Vous savez, la justice, les gendarmes et les policiers font avec les moyens qu'ils ont. Hein. Il n'est pas question ici de stigmatiser leur action. Simplement, et d'ailleurs depuis 5 ans, j'ai vu des nets progrès dans la protection des femmes battues ou harcelées. Ce sera jamais parfait, très loin de là. Mais il est vrai qu'une réponse rapide aurait peut-être permis d'éviter ce drame. Drame pour les deux familles, puisqu'il y a deux
Bien
familles
sûr.
Qui ont été brisées.
Effectivement, il y a deux victimes, on peut le dire comme ça. Hein. La personne qui est morte, et puis effectivement, Guy Fernet, qui le paye encore aujourd'hui. Maître Garbarini, c'est une affaire ordinaire, très ordinaire, hein, dont on parle aujourd'hui, qui est devenue extraordinaire, parce que finalement, le meurtrier est devenu, on vient de le dire, une victime.
C'est en effet une affaire ordinaire qui a eu des conséquences et qui aura des conséquences dans la vie future de Monsieur Guy Fernet et de sa famille.
Et de sa famille.
Bien évidemment, puisque encore une fois, qu'on le veuille ou non, Monsieur Fortas, il était lié à la famille Fernet. C'est ça, c'est du drame qui se rajoute au drame. Parce que aujourd'hui, je sais que l'INSEE, la mère de la petite Alicia, essaie de maintenir les liens avec la famille de son papa et de ne rien cacher à la petite fille. Simplement, la petite fille, vous vous doutez bien que elle va être, si elle ne l'est pas déjà, suivie par un pédopsychiatre parce que son papa n'est pas là. Et Monsieur Fernet refuse de remplacer son père. Il reste le papy. Et encore une fois, et je le dis, et ce ne sont pas des mots d'avocat pour une plaidoirie, c'est que M. Fernet, eh bien, il est puni deux fois. Forcément.
L'avocat général a rappelé que la justice privée, elle était bannie. Ce n'est pas un acte de justice privée, ça, ce qui vient de se passer dans ce village de l'Oise ?
Je ne suis pas d'accord, et je lui ai dit, et je connais bien la justice privée pour venir d'une île où souvent la justice privée est appliquée, hélas, on n'est pas dans une justice privée. Puisque pour qu'il y ait eu une justice privée, il aurait fallu que tout cela soit fait de manière taisante au service de gendarmerie et au parquet. Or, encore une fois, tout cela, c'est ce côté, là aussi, à la fois ordinaire et extraordinaire, c'est que tout ce qui s'est produit a été fait en public, si je puis dire. C'est-à-dire que tous les organes judiciaires et de police étaient informés de la situation et du comportement. Alors, la réponse n'a pas été appropriée. Encore une fois, loin de moi de faire le procès ni du ministère public, ni des services de gendarmerie qui ont quand même été là et qui ont recueilli les plaintes et qui ont recueilli les mains courantes. Mais on ne peut pas parler de justice privée, puisque la société a été là et a été informée. Donc on n'est pas sur des gens qui vont dire « Bon, cela, on va le régler entre nous ».
Merci beaucoup Maître Pascal Garbarini et Tony Poulain d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.